VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du mardi 23 juin 2015. À la une ce soir.
L'ONU a repris ce mardi à Bujumbura sa médiation dans la crise politique burundaise.
Guinée, rapprochement en vue entre Sélou Dan Diallo et le capitaine Moussa Dadis Camara.
Nous sommes étonnés de voir que M. Dalin, qui avait été frappé pendant les événements du 26 septembre, demande à ce que Dadis vienne avec lui dans un même mouvement pour aller aux élections présidentielles.
Nous reviendrons sur la condamnation au Burkina Faso de l'ancien directeur des douanes à 2 ans de prison.
Et Syrie, tous les protagonistes du conflit épinglés dans un rapport de l'ONU.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'arrestation d'Emmanuel Karenzi Karake, chef des services de renseignement du Rwanda, samedi, fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Kigali est révolté et demande sa relaxation immédiate. Le général a été interpellé à Londres sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. Il est accusé de crimes de terrorisme. Salwa Jafari.
À Kigali, la nouvelle est tombée comme un couperet. L'arrestation du général Karake est outrageante. Le gouvernement dénonce ce qu'il appelle une horreur avec toutes les pires théories conspiratrices. Mais la nouvelle n'a pas fait que des mécontents. Écoutez Ignacio Joftis d'Amnesty International.
C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre l'impunité dans le cas de cette grande violation des droits humains. Nous espérons que cette personne vienne en Espagne et qu'elle comparaisse devant le tribunal espagnol.
Mais qui est donc Emmanuel Karenzi Karake et comment expliquer sa mauvaise posture ? 54 ans, c'est une personnalité clé du régime rwandais. Souvent surnommé Kaka, il est l'une des figures de l'ancienne rébellion à dominante Tutsi. Dans un acte d'accusation émis le 6 février 2008, la justice espagnole avait demandé l'arrestation de 40 responsables rwandais, dont le général, qui auraient eu connaissance et approuvé le massacre de civils entre 1994 et 1997 dans les villes de Rwengira, Gizei et Siengugu, y compris la mort de 3 travailleurs humanitaires espagnols. La justice espagnole a indiqué ce matin avoir lancé la procédure de demande de sa remise à l'Espagne. L'audience nationale n'était cependant pas en mesure de préciser quand cette instance se prononcerait.
L'ONU a repris aujourd'hui à Bujumbura sa médiation dans la crise politique burundaise en présence de la société civile, de l'opposition et des chefs religieux du pays, mais en l'absence notable du camp présidentiel, nous dit Jacques Aristide.
Le ministre burundais de l'Intérieur, Edouard Dibumana, censé représenter le gouvernement, était absent d'après l'AFP. Le parti présidentiel, la CNDD-FDD, a clairement dit ne pas vouloir participer, estimant que l'initiative, en pleine campagne à 5 jours des scrutins, visait à perturber les élections. La réunion était placée sous l'égide du nouveau médiateur, le Sénégalais Abdoulaye Batili, représentant de l'ONU en Afrique centrale. L'opposition conteste la tenue des élections législatives et communales prévues le 29 juin et la communauté internationale réclame leur report, estimant les conditions pas propices. Les pourparlers achoppent sur la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat lors de la présidentielle du 15 juillet. Une ONG burundaise affirme qu'au moins 70 personnes ont péri depuis le début de la crise politique fin avril, alors que plus de 100 000 Burundais ont déjà fui vers les pays voisins à cause du climat préélectoral délétère dans leur pays.
Grève des enseignants au Gabon, un mouvement d'avertissement de 3 jours pour faire aboutir leurs revendications salariales, selon le quotidien national L'Union. Ils exigent notamment le versement des salaires de mars, avril et mai et le paiement de primes.
Accident de la circulation dans le nord-ouest de la République centrafricaine. 10 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Tédoua, non loin de Bouar. Au moins 12 blessés, indique la gendarmerie citée par l'AFP.
Lionel Zinsou, nouveau Premier ministre du Bénin, veut s'occuper des vrais gens et donner les bons exemples, c'est ce qu'il a déclaré à l'AFP. Le banquier d'affaires franco-béninois, nommé 10 mois avant la fin du mandat du président Thomas Boni Yayi, n'a qu'un court délai pour réaliser ses objectifs. Nombreux sont ceux qui se demandent s'il a été choisi pour être le dauphin de M. Boni Yayi à la prochaine présidentielle, donc en février 2016.
Épidémie de choléra au Soudan du Sud. Au moins 18 personnes sont mortes depuis le début du mois de juin à Djouba, la capitale, ravagée depuis un an et demi par la guerre civile. Tel est le bilan annoncé par le ministre sud-soudanais de la Santé. L'épidémie est partie des bases surpeuplées des Nations Unies à Djouba, où se sont réfugiées près de 30 000 personnes. Avant de se propager ailleurs en ville, a indiqué à la presse le ministre, faisant état de 171 cas recensés.
Un recruteur du groupe État islamique, soupçonné d'être impliqué dans l'attaque contre le consulat des États-Unis à Benghazi, en Libye, a été tué dans un raid de l'aviation américaine le 15 juin à Mossoul, dans le nord de l'Irak, a annoncé un porte-parole du Pentagone. Le point avec Camille Gros-Didier.
Selon le colonel Steve Warren, Ali Oni Al-Khazi était également soupçonné d'être impliqué dans l'attaque du 11 septembre 2012 contre le consulat des États-Unis à Benghazi, en Libye, qui a coûté la vie à 4 Américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens. Sa mort va affaiblir les capacités de l'État islamique à intégrer des djihadistes originaires d'Afrique du Nord sur les fronts irakiens et syriens et élimine un djihadiste ancré de longue date dans le terrorisme international, a souligné le colonel Warren. Le département d'État et les Nations Unies avaient désigné Al-Khazi comme terroriste plus tôt cette année. Le militant aurait rejoint Ansar al-Sharia en Tunisie en 2011 et il avait aidé par la suite à recruter des combattants. Il aurait aidé ces derniers à s'infiltrer en Tunisie et en Syrie tout en introduisant des armes en contrebande en Tunisie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une commission d'enquête de l'ONU a peint aujourd'hui un sombre tableau de la situation en Syrie, 4 ans après le début de la contestation contre le régime de Bachar al-Assad. Dans ce rapport, tous les protagonistes de la crise sont critiqués pour avoir imposé à plusieurs villes des sièges aux effets dévastateurs. Lionel Gaïman nous en dit plus.
Paolo Pignero, responsable de la commission d'enquête sur la Syrie, a déclaré devant le Conseil des droits humains de l'ONU à Genève que très peu d'efforts ont été déployés par les parties en conflit. Le gouvernement, les combattants rebelles et les djihadistes du groupe État islamique pour respecter les prescrits du droit international. Des attaques sont menées de manière délibérée et indiscriminée contre les régions habitées par les civils. Il en résulte un degré de traumatisme qu'on ne peut pas sous-estimer, a-t-il fait remarquer. Les sièges et le déni prolongé d'accès à l'aide humanitaire ont conduit à la malnutrition et à la famine, a ajouté M. Pignero. Le rapport de l'ONU dénonce par ailleurs l'incapacité de la communauté internationale à forger une solution à ce conflit qui, en 4 ans, a causé la mort de plus de 220 000 personnes, la relocalisation de plus de 4 millions à l'intérieur de la Syrie et l'émigration forcée d'environ 7,5 millions d'autres vers les pays voisins. En outre, estime le HCR, plus de 12 millions de personnes ont maintenant besoin d'aide en Syrie à cause de la violence. Damas rejette le rapport et accuse la commission de partialité.
Toujours en Syrie, les combattants kurdes et leurs alliés ont repris la ville d'Ain Issa, auparavant occupée par le groupe État islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes ont effectué un retrait total, ce qui place désormais les Peshmerga à environ 50 km de la ville de Raqqa, que l'État islamique considère comme capitale de son soi-disant califat en Syrie et en Irak. Plus tôt cette année, les Kurdes avaient reconquis la ville stratégique de Kobané, limitrophe de la Turquie, avec l'appui de la coalition internationale.
Les États-Unis comptent employer des moyens militaires et non militaires pour contrer l'agression de la Russie en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter. Le patron du Pentagone s'exprimait lors d'une escale à Berlin, en route pour l'Estonie, où il doit rencontrer ses homologues des pays baltes. Ashton Carter a annoncé la participation éventuelle des forces spéciales américaines, d'agents de renseignement et autres ressources militaires à une nouvelle force de réaction rapide mise sur pied par l'OTAN pour aider l'Europe à repousser toute agression de Moscou. Une réunion avec les ministres de la Défense de l'Alliance Atlantique est aussi prévue jeudi à Bruxelles.
Dossier nucléaire iranien, le compte à rebours a commencé pour la signature de l'accord définitif. Téhéran et les puissances mondiales se sont fixés la date du 30 juin pour parvenir à cet accord qui fait suite à une entente politique conclue plus tôt cette année. Un marathon diplomatique est donc lancé. Après 20 mois d'intenses discussions, les parties veulent maintenant assurer dans le long terme le caractère pacifique du programme nucléaire de l'Iran. Il s'agira aussi de la levée des sanctions imposées par la communauté internationale au régime iranien. Dans les deux camps, on met en garde contre les exigences excessives. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté aujourd'hui l'Iran et le groupe 5 plus 1, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, à faire tous les efforts possibles pour aboutir à un accord.
Et ici aux États-Unis, la chasse à l'homme se poursuit pour mettre la main sur 2 fugitifs évadés le 6 juin d'une prison de l'État de New York. Comme le souligne l'AFP, plus de 1000 membres des forces de l'ordre continuer à chercher ce mardi ces 2 meurtriers dont des traces d'ADN ont été retrouvées dans une cabane de chasse à quelques 60 km de la prison. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui et sur VOA Afrique.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Camille Gros-Didier.
Selon les statistiques de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, les investissements directs étrangers ont augmenté de 9% l'an passé, passant à 1 450 milliards de dollars. Et les pays en développement ont maintenu leur leadership en matière d'accueil de capitaux. Ils ont attiré 778 milliards de dollars, captant ainsi 54% du total des flux. On écoute l'économiste Axel Giroux, l'un des auteurs du rapport.
Les investissements directs étrangers peuvent être importants, tout d'abord puisqu'ils forment une ressource de financement externe qui peut être assez substantielle dans le cas de certaines économies. Ensuite, en résultat des activités des firmes multinationales étrangères, il peut se produire des effets bénéfiques sur l'économie locale en termes de création d'emplois, de transfert de technologies, par exemple.
Le problème, notamment en Afrique, est que les investissements directs étrangers ont tendance à se concentrer dans certains secteurs. On songe notamment au secteur des mines. Comment est-ce que on peut favoriser des investissements dans le reste des économies?
L'importance est d'essayer d'obtenir une diversification non seulement des sources d'investissement, mais aussi des secteurs vers lesquels les investissements se dirigent.
L'économiste Axel Giroux de la CNUSED, elle était jointe à Genève.
Merci Camille pour cette Minute Éco.
Sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
La Coupe du monde féminine au Canada, ça passe pour les Américaines.
Oui, l'équipe des États-Unis s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi en battant la Colombie 2-0 à Edmonton. Les buts américains signés de Morgan à la 53e minute, ça ne s'invente pas, et Lloyd sur penalty à la 66e minute. Les Américaines affronteront la Chine vendredi à Ottawa pour une place dans le dernier carré. Autre qualification, celle de l'Angleterre qui a dominé la Norvège 2-1 à Ottawa. La Norvège avait pourtant ouvert le score par Gulbrandsen sur un corner à la 54e minute, mais Houghton à la 61e puis Bronze à la 76e d'une superbe frappe ont donné l'avantage et la victoire aux Anglaises qui affronteront le pays organisateur, le Canada. Ce sera samedi à Vancouver pour une place en demi-finale.
Football côté justice.
La police italienne a arrêté 7 personnes en lien avec une affaire de match truqué pour aider le club de Serie B de Catane à éviter la relégation. Le président du club de Catane, Antonio Pulvirenti, son vice-président Pablo Constantino et l'ex-directeur sportif Daniele Delicari ont été assignés à résidence ainsi que 2 agents et 2 directeurs de sites de Paris en ligne.
Paris en lice pour organiser les JO de 2024.
La capitale française a officiellement annoncé mardi sa candidature par la voix de plusieurs champions olympiques français réunis à Paris au siège du Comité olympique français. Simultanément, les sportifs ont envoyé le hashtag Paris 2024 sur Twitter, alors que Paris a rejoint ainsi les candidats déjà déclarés pour ces Jeux olympiques d'été 2024, Boston, Hambourg et Rome. La décision finale sera prise à l'été 2017.
et l'Afrique à l'honneur lors du prochain Tour de France.
Oui, 5 coureurs africains feront partie du groupe retenu pour la grande boucle par l'équipe sud-africaine MTN Kubeka. 2 Érythréens, Merawi Kudus et Daniel Tekleimi Manot, et 3 Sud-Africains, Louis Menchech et les frères Jans van Rensburg. 2 autres coureurs africains, l'Érythréen Nathanael Beran et l'Algérien Youssef Regigui, seront les remplaçants du groupe.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, Conakry.
Oui, rapprochement en vue entre Sélou d'Alain Diallo et le capitaine Moussa Dadis Camara. Le leader de l'UFDG a rendu visite il y a quelques jours à l'ancien homme fort de la Guinée qui vit toujours à Ouagadougou. En vue de la présidentielle en Guinée, cette possible alliance en surprend plus d'un, puisque le militaire était au pouvoir lors du massacre du stade du 28 septembre 2009. À l'époque, 157 personnes avaient été tuées. Sélou d'Alain Diallo lui-même avait été blessé. Nicolas Pineau a joint pour une réaction l'avocat François Loi. Il est aussi le président de l'ONG Même Droit pour Tous.
Je suis étonné, mais ça ne me surprend pas parce que nous sommes en politique. Les hommes politiques, ce qui les intéresse, c'est comment conquérir le pouvoir. Nous sommes un peu étonnés de voir que M. Dalin, qui avait été frappé soit pendant les événements du 28 septembre, demande à ce que Dadis vienne avec lui pour être dans un même mouvement pour aller aux élections présidentielles d'octobre de cette année.
Est-ce que selon vous, le capitaine Moussa Dadis Camara peut rentrer en Guinée et même se présenter à la présidentielle ?
En tant que défenseur des droits de l'homme et en tant qu'avocat, moi je pense qu'à l'état actuel de la procédure, M. Dadis Camara n'est pas encore inculpé parce qu'il y a la présomption d'innocence. Donc il bénéficie de tous ses droits. Au même titre que tous les Guinéens, il a le droit de se porter candidat aux différentes élections dans son pays. Nous comprenons la peine des victimes, mais en même temps, il faut respecter la loi parce que la loi doit avoir la même application à l'égard de tout le monde.
Presque 6 ans après les faits, les victimes de l'attaque du 28 septembre attendent toujours justice en Guinée. Qu'en pensez-vous ?
C'est ce qui nous étonne, ceux qui avaient été frappés au stade. Ce sont les mêmes personnes qui ont eu les rênes du pouvoir. L'ancien Premier ministre Jean-Marie, par exemple, Doré, était au stade. Il avait été frappé, ses habits avaient été déchirés. Nous avons été surpris de voir que M. Jean-Marie Doré interdise l'an 1 de la commémoration de l'an 1 des événements du 28 septembre. Moi, ça m'a personnellement surpris. Et en même temps, après 2010, en octobre, novembre 2010, nous avons eu les élections présidentielles et on a eu la chance d'avoir un président démocratiquement élu. Mais depuis 2010 jusqu'à maintenant, là, on a comme l'impression que les autorités n'ont pas la volonté d'aller véritablement au jugement de cette affaire-là. Donc, tantôt, ils brandissent des inculpations quand la CPI annonce son arrivée en Guinée. Et après, on laisse tomber tout. Donc, je me demande pourquoi est-ce que ceux-là qui avaient été victimes au stade, étant au pouvoir, n'arrivent pas à faire aboutir ce dossier.
Est-ce qu'aujourd'hui, Tiekboro Camara ou encore Claude Pivi sont inquiétés par la justice guinéenne ?
Bon, ils ont été inculpés, formellement inculpés, mais Pivi, quant à lui, il se fait de plus en plus discret. Tiekboro, lui, il est actif, donc il est au service du régime. Et puis, il ne semble pas être inquiété par cette inculpation. C'est cela notre incompréhension.
Maître François Loi, président de l'ONG Même Droit pour Tous en Guinée.
Au Burkina Faso, l'ancien directeur des douanes, Ousmane Guiro, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et une amende de 10 millions de francs CFA. Il s'est aussi vu confisquer la somme de 900 millions de francs CFA. Ousmane Guiro avait été arrêté, souvenez-vous, fin 2011, en possession de près de 2 milliards de francs CFA en espèces. Claude Ouetta, le responsable du RENLAC, le réseau national de lutte contre la corruption, dit qu'il n'est pas surpris du verdict.
Nous ne sommes pas surpris parce que la justice n'est pas encore débarrassée, j'allais dire, de ce que nous on appelle ici les juges acquis. C'est des juges qui étaient acquis à l'ancien régime. Comme Guiro, effectivement, c'est un des pontes de l'ancien régime.
Nous nous excusons auprès de nos auditeurs pour ces difficultés techniques.
Pas pour la quitter, mais parce qu'il ne pouvait pas la quitter.
Voilà.
Mais en tout cas, lui donner les sanctions les plus douces. Donc, on l'a condamné pour corruption. Vous... On devrait le condamner également pour enrichissement illicite. Mais je pense qu'au niveau du tribunal, les gens ont jugé qu'il n'avait pas les preuves qu'il s'est enrichi de façon illicite. Et donc, il a été relaxé. Et on lui a remis 1 milliard de francs CFA parce que, justement, le milliard là, ce qui était en cause, c'était l'enrichissement illicite. Donc, on va lui remettre 1 milliard de francs CFA.
Finalement, il s'en tire à bon compte, hein?
À très bon compte. C'est-à-dire que nous, nous sommes contents parce que, en fait, les douaniers ont toujours dit, puisque nous les avons toujours classés en première position parmi les services les plus corrompus. Bon, en fait, ce que nous on disait, ce n'était pas vrai. Et donc, ce procès-là indique que le DG de la douane a été condamné pour corruption. Donc, ça veut dire qu'il y a de la corruption dans la douane. Ça, ça nous satisfait. Par contre, ce qui ne nous satisfait pas du tout, c'est le fait qu'on lui donne une peine, j'allais dire, très, très, très légère.
Est-ce que vous êtes aussi un peu déçu du fait que le procès de la douane même dans son ensemble n'ait pas eu lieu?
Ah oui. Nous, nous pensons que, en fait, quand vous regardez l'affaire Guillaume, c'est l'affaire de la corruption système de la douane. Quand vous regardez dans ses cantines, il avait noté le nom de tous les chefs de service qui lui envoyaient effectivement de l'argent. La justice aurait pu effectivement faire des investigations pour voir comment cette corruption systémique se fait au niveau de la douane. Malheureusement, bon, ils ne sont pas allés dans cette direction. La conclusion que nous avons tirée, c'est qu'il y a un système mafieux qui existe au niveau de la douane du Burkina Faso.
Voilà, c'était Claude Ouetta, secrétaire général du Réseau national de lutte contre la corruption au Burkina. Il était joint par Bagué Sikora.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Presque mois après son investiture à la tête du Nigeria, le président Muhammadu Buhari fait face à un défi de taille. Les caisses fédérales sont pratiquement vides, a-t-il fait savoir aujourd'hui après une rencontre avec les gouverneurs d'État. Même casse-tête au niveau des États dont la dette totale se chiffre à 3,3 milliards de dollars. Pour faire face à cette situation, le président Buhari a promis de lutter contre la corruption et récupérer les milliards de dollars détournés du trésor public. Timothée Donangma a recueilli l'analyse du professeur Tondonou Amosu, ancien vice-recteur de l'Université d'État de Lagos.
C'est le défi de tous les défis et j'espère qu'il pourra quand même s'en sortir parce que éviter déjà de gros problèmes, ça on pourrait quand même en venir à bout. Mais quand il n'y a pas d'argent, quand les caisses sont vides, je me demande même avec toute l'originalité et la transparence, en tout cas on sera transparent puisqu'il n'y a rien qui empêche justement de faire autrement. Quand il y a plus d'argent, il faut la vérité, c'est ce qu'il commence déjà par nous dire. Mais on va voir maintenant comment tout le monde va traverser cette période.
La situation doit être vraiment grave pour que les fonctionnaires ne reçoivent pas leur salaire.
Oui, oui. Dans certains États, ils sont déjà au 8e mois sans salaire, avec toutes les retombées sur le plan, je ne sais pas, même sur le plan familial. Et je crois qu'il y a certains qui sont déjà acculés pratiquement au suicide. De toute façon, l'affaire est grave. C'est très grave. À part quelques États comme l'État de Lagos, où au moins il semble bien se passer. Les autres, je crois qu'on les a réunis à Abuja parce qu'ils sont allés quémander là-bas.
Malgré cette situation, le président Buhari n'a toujours pas mis en place un gouvernement. Pourquoi?
Pourquoi? Le pauvre, je dis bien le pauvre parce que il doit écouter tout le monde, mais je crois qu'en fin de compte, il sera obligé de prendre sa décision. Il a bien dit qu'il n'est à personne et à tout le monde, mais des fois, je me demande à quoi ça retourne. Il faut quand même qu'il se décide, parce que ça fait bientôt un mois qu'il est au pouvoir et toujours on a l'impression qu'on reprend en avion sans pilote.
Quelle est la situation du côté du secteur pétrolier qui joue un rôle clé dans l'économie nationale?
Le secteur pétrolier commence maintenant à redresser un peu la barre. On a dit tout récemment que même les raffineries ont repris leurs activités et se peut qu'on n'est pas vraiment à importer au point où on en était avec l'ancien régime. Vous savez, les raffineries ont la capacité de répondre aux besoins du Nigeria et l'ancien régime, on n'a pas compris, c'était pour des affaires de gros sous qu'on a préféré importer. Tout porte à quoi maintenant qu'on pourrait quand même faire marcher les raffineries et pourquoi pas les importations, ça va baisser considérablement.
Le professeur Tondono Amosu, ancien vice-recteur de l'Université d'État de Lagos.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. La tuerie de Charleston qui ravive aux États-Unis nombre de débats. La question raciale a-t-elle évolué depuis l'arrivée du président Obama? Est-il temps de prohiber le drapeau confédéré, symbole de l'oppression des Africains américains? Et pourquoi, en dépit de la multiplication de tragédies, la loi sur les armes ne change pas? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Les créanciers de la Grèce ont salué les nouvelles propositions de réforme présentées par Athènes, jugeant qu'elles pouvaient servir de base à un accord cette semaine pour permettre au pays d'éviter un défaut sur sa dette. Par contre, elles suscitent des critiques au sein de la coalition au pouvoir à Athènes. Le point avec Michel Joseph.
L'accueil globalement positif réservé par les responsables européens aux propositions grecques a créé un climat d'optimisme, car un compromis est nécessaire avant le 30 juin, date à laquelle Athènes aurait à rembourser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international, sous peine d'être déclaré en défaut de paiement. La crise pourrait alors précipiter une sortie de la Grèce de la zone euro. Les propositions du Premier ministre grec Alexis Tsipras vont dans le sens des exigences de ses créanciers, puisqu'Athènes propose notamment de porter progressivement l'âge de la retraite à 67 ans, de réduire les opportunités de départ anticipées et d'accepter un taux normal de TVA de 23% en limitant la portée des taux réduits. Le chef du gouvernement grec a expliqué comment il voit la suite des négociations.
Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την Ευρώπη.
Je voudrais dire que l'Europe se trouve à un point crucial de son avenir. Nous aurons besoin de trouver une solution qui respecte les positions de toutes les parties. Cet accord devra donc être basé sur les valeurs fondamentales de l'Europe, la démocratie et le vote populaire, mais aussi sur la nécessité de respecter les règles européennes.
La Grèce a fait lundi ses premières vraies propositions depuis de nombreuses semaines, a souligné le président du Conseil européen, Donald Tusk. Tout aussi optimiste, le ministre néerlandais des Finances, Heerwen Dijsselbloem, s'est dit convaincu qu'on pourrait parvenir à un accord final dans le courant de la semaine. Des députés de la coalition au pouvoir à Athènes ont vivement critiqué mardi les concessions proposées par l'administration Tsipras, les jugeant contraires aux engagements pris il y a 5 mois devant les électeurs. Stelios Maragakis, musicien grec de 55 ans, ne décolère pas.
Ils se jouent tous de nous. Même si Tsipras réussit, ce sera insuffisant. Nous, peuple grec, allons payer la facture, en fin de compte, c'est ce que je crois.
Sans le soutien d'une majorité des parlementaires, Tsipras pourrait être contraint de retourner devant les électeurs, soit via un référendum, soit via des législatives anticipées, ce qui prolongerait l'incertitude autour du sort de la Grèce et de la zone euro.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Cette édition touche à sa fin. On remercie Michel Joseph, qui a dirigé la production, assisté de Micha Dubinsky à la console. Présentation, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Brazzaville sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM, 101.7 FM Kankuzo Burundi et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.